Anne, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro pour un point de l'actualité. Le président soudanais Omar al-Bashir crie victoire sur la Cour pénale internationale après la suspension par la procureure de l'enquête sur les crimes de guerre au Darfour. Selon lui, le tribunal a admis son échec dans ses efforts contre lui. Fatou Bensouda, la procureure en chef de la CPI, a déclaré vendredi qu'elle n'avait d'autre choix que de mettre en veilleuse l'enquête dans l'affaire Bashir pour consacrer les énergies à d'autres cas plus urgents. Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté ce matin à Ouagadougou en hommage à Norbert Zongo, un journaliste burkinabé assassiné il y a 16 ans. L'affaire incarne les dérives les plus graves du régime du président Blaise Compaoré, chassé par la rue le 31 octobre. Après 27 ans de règne, aucune condamnation n'avait été prononcée, malgré des années de procédure. Sur le sens de cette manifestation, on écoute Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Zongo.
L'affaire Norbert Zongo n'a pas encore connu son dénouement total. Donc c'est aussi le symbole d'une nouvelle mobilisation, d'une nouvelle détermination pour une lutte définitive pour aboutir à la vérité et à la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Pour nous, il est important déjà que des actions fortes soient engagées et que tous les dossiers qui sont pendants au Burkina Faso connaissent une évolution concrète avec des résultats concrets visibles pour tout le peuple burkinabé.
Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Zongo. 26 personnes au moins ont péri dans un naufrage sur le lac Tanganyika dans le sud-est de la République démocratique du Congo. 221 passagers ont pu être sauvés selon Laurent Sumba Kaouzi, le ministre des Transports de la province du Katanga, qui a indiqué qu'une surcharge est à l'origine de l'accident.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Russie a menacé les États-Unis de représailles si Washington impose de nouvelles sanctions à Moscou sur la crise en Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a dénoncé les décisions inacceptables et les sentiments anti-russes en réaction à l'adoption d'une loi autorisant la livraison d'armes létales à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Les pourparlers de l'ONU sur le changement climatique ont continué ce samedi, un jour après la fin officielle de la réunion, ici à Kaba.
Les négociations sont au point mort parce que les pays riches et pauvres se rejettent la responsabilité de la pollution au carbone. La question de la réduction des émissions de gaz a constitué pendant longtemps une pomme de discorde. Les pays en développement ont fait pression pour voir les pays riches endosser le fardeau du coût de la dépollution. Mais le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré jeudi que plus de la moitié des émissions mondiales provoquant le réchauffement de la Terre provient des pays en développement et qu'il était impératif qu'ils agissent. Les négociateurs venus de 200 pays s'efforcent de faire des progrès dans ces pourparlers en prévision d'un important sommet prévu à Paris l'année prochaine, sommet au cours duquel les gouvernements espèrent adopter un nouveau pacte mondial sur le climat.
Merci, ici à Kaba. Le Sénat américain a reporté à lundi le vote du projet de budget de plus de 1 000 milliards de dollars devant financer le gouvernement fédéral jusqu'à septembre 2015. Le Sénat devrait toutefois adopter un budget provisoire ce samedi pour prolonger temporairement le financement du gouvernement jusqu'à mercredi prochain. La Chambre des représentants a déjà adopté jeudi la nouvelle loi de finances et a adopté une résolution permettant le maintien du fonctionnement du gouvernement et qui donne l'occasion aux législateurs du Sénat de répondre aux préoccupations des républicains conservateurs et des libéraux démocrates. Marche des droits civiques organisée aujourd'hui à Washington par le révérend Al Sharpton. Cette marche a pour but de protester contre les violences policières et l'injustice raciale. La marche va se terminer à l'extérieur du Capitole avec une manifestation appelant à la réforme nationale sur la façon dont la police enquête et la façon dont ils utilisent la force contre des suspects. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Les prochaines nouvelles, c'est à 15h51, donc soit dans une heure. Voilà, au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Comment je pouvais envoyer mes filles à l'école?
Vous écoutez le magazine au féminin de la Voix de l'Amérique avec Nathalie Barge et une invitée en ligne à Djouba, au Sud-Soudan, Dawn Porter, responsable de communication pour l'UNICEF. Et c'est pour faire le point sur une situation très inquiétante, notamment celle des enfants déplacés par la guerre. Madame, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci.
Qu'est-ce que vous faites actuellement donc pour ces enfants, en tout cas pour une partie de ces enfants?
Donc nous sommes en train de réhabiliter les salles de classe pour les enfants. On a réussi à avoir à peu près 60 000 enfants qui ont reçu au moins le base de l'éducation. Nous sommes en train de fournir les tentes qui sont utilisées pour les salles de classe provisoires. Nous sommes en train de former les professeurs. Nous avons fourni aussi les fournitures scolaires.
Vous dites également, l'UNICEF dit également qu'il y a 12 000 enfants qui sont utilisés par les groupes et les forces armées au Soudan du Sud, mais c'est un chiffre absolument incroyable. C'est énorme comme chiffre, 12 000.
Oui, c'est énorme, c'est choquant, mais c'est un chiffre qui, malheureusement, c'est précis. On a des rapports qui sont très fiables, que ces enfants sont en train d'être utilisés par les groupes armés. Nous travaillons beaucoup avec l'armée du Soudan du Sud et aussi avec les groupes en opposition pour qu'ils lâchent les enfants, pour qu'ils ne les utilisent plus. En fait, nous avons fait beaucoup de progrès avant ce conflit avec l'armée du Sud-Soudan parce que ils utilisaient des enfants, mais on a fait beaucoup de progrès et le problème était vraiment sur le chemin d'être résolu. Mais depuis ce conflit-là, tout le progrès était complètement renversé et maintenant on a tous ces enfants. Nous avons eu un réussite avec un des groupes armés. Nous avons un agrément que à peu près 2000 enfants sera lâché très bientôt. Après ça, il faut qu'ils seront réintégrés dans leur communauté. Ça aussi, c'est un problème très difficile. Et les lois, ils disent qu'il faut qu'ils n'utilisent pas les enfants qui ont moins de 18 ans. Donc, c'est la responsabilité des deux côtés. Même si les chiffres sont plus grands aux côtés de l'opposition, c'est absolument la responsabilité des deux côtés de relâcher tous les enfants qu'ils utilisent.
Donc l'UNICEF dit également qu'il y a un gros problème de malnutrition et vous avez enregistré 80 000 enfants qui sont sévèrement mal nourris. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Et comment le gérez-vous?
Nous sommes en train de travailler avec le programme alimentaire mondial. Dans les parties du pays qui sont très difficiles à accéder, c'est possible seulement par avion pour amener de la nourriture et pour le traitement pour les enfants aussi qui sont très, très, très mal nourris. Jusqu'à maintenant, on a réussi à traiter 80 000 enfants qui étaient sévèrement mal nourris. Et les enfants sont très vulnérables. D'abord, il y a un manque de nourriture dans le pays, mais aussi il y a les maladies, il y a un manque des services de la santé. Et donc les enfants, par exemple, quand ils ont la diarrhée, ils sont plus vulnérables à la malnutrition. Donc c'est très important de les traiter pour les malnutritions. Ce n'est pas juste une question d'arriver avec de la nourriture.
Nous arrivons vers la saison sèche. Et bon, l'avantage est que l'on peut mieux se déplacer pour accéder à ses enfants, à ses familles. Mais dans le même temps, c'est en général dans ces périodes-là que les conflits reprennent de plus belle. Donc que ces populations sont encore plus menacées, n'est-ce pas?
Oui, ça, c'est vraiment un souci. La seule solution pour le Soudan du Sud, c'est la paix. On a tellement besoin d'un agrément de paix qui peut durer, qui est solide et qui peut durer. Sinon, les enfants, ils risquent de perdre leur futur. Et ça, c'est le futur du pays aussi.
J'en profite donc pour dire ici justement que vous avez un programme, notamment avec le gouvernement, pour justement sensibiliser sur les questions de la paix au Soudan du Sud. Doun Porter, je rappelle que vous êtes responsable de communication pour l'UNICEF à Djouba, au Soudan du Sud. Merci beaucoup pour votre témoignage. À très bientôt. Bon courage.
Merci. Merci beaucoup.
Parole de femme.
Vous écoutez le magazine au féminin de VOA Afrique, présenté par Nathalie Barge. Lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate de l'histoire de cette récompense prestigieuse, a déclaré qu'elle s'engagerait davantage dans son combat pour l'éducation des enfants. Le 10 décembre, l'adolescente pakistanaise a reçu le prix conjointement avec l'Indien Kailash Satyarthi. « Je continuerai ce combat jusqu'à ce que je voie tous les enfants à l'école », a-t-elle affirmé. L'activiste indien a abondé dans le même sens. Le fondateur de l'organisation Bashpan Bachao Andolan a sauvé près de 80 000 enfants qui travaillaient dans des usines et des ateliers. « Je refuse d'accepter que le monde soit si pauvre quand une seule semaine de dépenses militaires mondiales suffirait à mettre tous nos enfants dans des classes ». Je refuse d'accepter que les chaînes de l'esclavage soient plus fortes que la quête de liberté, a déclaré Satyarthi. Rappelons que selon l'ONU, près de 58 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Et l'Organisation internationale du travail chiffre à 168 millions le nombre d'enfants forcés de travailler dans le monde.
Entre parenthèses.
Pour le caucus des femmes du Sud Kivu pour la paix, cette situation est loin de plaire dans un gouvernement dit de cohésion nationale. Solange Luachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes, se dit être
choquée et bouleversée. On a attendu longtemps ces gouvernements et un gouvernement qu'on s'est dit de cohésion nationale, que les femmes soient faiblement représentées comme ça. Pour moi, on n'a pas tenu compte des compétences des femmes parce que je me dis, est-ce que la République démocratique du Congo a manqué même 10 femmes qui pouvaient être ministres.
Les femmes du Sud Kivu notent que le président Kabila a violé non seulement la constitution et les autres textes juridiques internationaux qui protègent la femme, mais il n'a pas tout simplement respecté sa promesse faite lors de la clôture des concertations nationales, promesse selon laquelle les femmes seraient représentées au gouvernement à plus de 30%.
La constitution de la République démocratique du Congo qui consacre la parité homme-femme, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit que les femmes doivent être représenté dans les instances des prises de décision. Mais où est-ce que le président a mis tous ces textes? Il n'a pas respecté sa parole. Et pour que le pays fonctionne mieux, il faut quand même qu'on montre cette bonne volonté de respecter les textes.
Dans ce gouvernement de 48 personnes, il y a seulement 2 femmes ministres et 4 femmes vice-ministres. La société civile du Sud Kivu, quant à elle, pense que la cohésion nationale n'a rien à voir avec le changement du gouvernement, mais plutôt le changement de la situation de la population. Descartes Mpongé, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu.
La cohésion ne passe pas par les changements des personnes. C'est une mentalité d'accepter les vérités, d'accepter les reproches et les critiques positives. C'est ça la cohésion nationale, mais aussi c'est de trouver des solutions à des problèmes comme au Nord Kivu, à Beni, où on a encore assassiné les gens le samedi passé. Je pense qu'il n'y a que l'accord global et inclusif, et même peut-être aussi la loi Silaseni, qui demandait expressement qu'il y ait les acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « moi, je suis au gouvernement au nom de la société civile ».
Bukavu, Joli Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez le magazine Au Féminin avec Nathalie Barge et une invitée en ligne, Nicole Ntumba Boitia, professeure de droit public international à l'université de Kinshasa. Madame, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour madame.
Comme nous venons de l'entendre dans ce reportage des femmes de l'Est de la RDC, j'aurais bien voulu avoir votre réaction sur le fait qu'il n'y ait finalement que 7 femmes sur 48 membres.
C'est malheureux et j'irai même un peu plus loin en disant que c'est scandaleux. À partir du moment où on nous avait promis à l'époque, quand M. Kabila avait manifestement fait des promesses dans son discours à la Nation déjà de l'année passée, en disant que le respect de la représentativité des femmes sera donc considéré. Donc, on parlait à l'époque de 30% de parité de la présence des femmes. Eh ben, on est vraiment loin du compte parce que même si c'est vrai qu'on a 3 ministres femmes, mais les 4 autres sont des vice-ministres. Et encore, c'est toujours comme d'habitude dans des ministères, on va dire de moindre importance, parce qu'on espérait aussi que les femmes puissent avoir des ministères dits de régalien, des ministères de souveraineté, genre intérieur, défense, etc. Et encore une fois, nous sommes floués, visiblement. C'est pas demain que les hommes congolais arriveront à nous redonner notre place, la place que nous méritons.
Alors Nicole Ntumba Boitia, je rappelle que vous êtes professeure de droit public international et nous allons maintenant aborder le sujet, justement la question du droit à la santé de la reproduction et notamment le fait qu'il y a quelque temps, la loi sur la santé de la reproduction a justement été rejetée dans votre pays, c'est ça?
Oui, tout à fait. La loi sur la santé de la reproduction a été rejetée en avril 2014 par le Parlement. Pour la petite histoire, la commission socioculturelle de notre Parlement, auprès duquel était présenté ce projet de loi, portée par 2 femmes parlementaires, avait décidé justement de faire de la santé de la reproduction une loi à part entière, de sorte que la non-application de cette loi serait assortie de sanctions. Mais malheureusement, le Parlement étant composé majoritairement d'hommes, ça a été simplement balayé d'un revers. Ce que je retiens, c'est simplement que les résistances socio-culturelles ont encore frappé, encore une fois, pour empêcher justement que cette loi puisse apporter un peu d'épanouissement aux femmes. Parce que la santé de la reproduction, ce n'est pas simplement ce qui touche le sexe ou la planification familiale. Ça touche aussi le mariage, ça touche aussi le confort, on va dire, du couple, de l'enfant, donc par extension. Donc rejeter une telle loi alors que des pays comme le Sénégal, des pays comme le Burkina Faso ont adopté, sont allés loin dans cette problématique-là et s'en sortent très bien. Voilà que nous, les Congolais, alors que nous voulons aussi avancer dans des domaines qui apportent le bien-être à la population et particulièrement les femmes, voilà qu'on bloque une loi salutaire. On se contente d'un programme.
Quels étaient les points importants de la loi selon vous, si vous aviez éventuellement un exemple à nous citer?
Au niveau de la planification familiale, on libéralise les techniques de contraception, et on essayait en tout cas de détabouiser le rejet de la vente. On aurait intéressé les jeunes dans la problématique de la santé de la reproduction. Donc, ça aurait été tout un programme pour l'épanouissement finalement de la famille et en définitive de la société.
Alors quand on parle de loi, on parle également de sanctions. Donc est-ce qu'il y avait des clauses particulières par exemple sur, je ne sais pas, sur le mariage forcé, le mariage des enfants, les choses comme ça? Est-ce que c'était inclus dans cette loi ou non?
Absolument, il y avait en tout cas, dans le projet tel qu'il était stipulé, on disait non au mariage forcé, non au mariage, parce que je vais vous étonner, mais notre code de la famille considère le mariage de la jeune fille à partir de 14 ans.
Ah, encore, déjà à l'époque, en RDC.
Oui, En RDC, ça c'était le nouveau code de la famille zaïrois à l'époque de Mobutu, donc en 1982, avait rabattu à 14 ans l'âge de mariage d'une petite fille. Bon là, je vais vous épargner toutes les raisons pour lesquelles à cette époque-là on avait milité pour ça, mais en tout cas la nouvelle loi sur la santé de la reproduction réformait cette clause-là de pousser cet âge-là à 14 ans. Et puis ça régulait aussi cette affaire des enfants issus de la bureaucratie. La burogamie, c'est ce néologisme typiquement congolais qui est en fait une espèce de polygamie. Mais comme dans la loi, nous ne sommes pas polygames, le mariage congolais est monogame, ben, subtilement, les hommes congolais ont trouvé une façon de contourner la loi en instaurant la burogamie. Donc, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, en fait, ce sont les femmes concubines, tout simplement. Donc, les enfants issus de ce mariage-là, de ces unions-là, parce que c'est pas vraiment des mariages, oui, des mariages coutumiers parfois, les enfants issus de ce mariage-là auraient dû avoir, on va dire, un statut par rapport aux enfants dits légitimes.
Vous voulez dire que ce type de pratique est connu de tous, et par exemple, la femme officielle d'un homme est au courant que son mari aurait avec d'autres femmes des enfants, c'est ça?
Absolument. C'est un secret de Polichinelle. L'épouse légitime sait très bien que son mari a un deuxième bureau, un troisième bureau, un quatrième, un cinquième, un cinquième, un sixième, un septième.
Et là, ce que vous voulez dire, donc, c'est que finalement, les enfants issus de ces unions n'ont absolument aucun droit sur le papier, en quelque sorte, c'est cela?
Ils avaient un droit. Le code de la famille prévoyait un droit pour ces enfants, dans le sens où, déjà à l'époque de Mobutu, les mœurs étaient assez légères, on va dire. Donc, la loi disait quoi? La loi disait que tous les enfants du père, même nés hors mariage, sont tous légitimes au regard de la loi, à condition que le père les ait reconnus dans un livret de famille. Bon, maintenant, dans le cas où le papa ne les a pas reconnus, tous ces enfants-là sont un peu abandonnés à eux-mêmes. La loi sur la santé de la reproduction essayait, plus ou moins, de donner, on va dire, un statut à ces enfants-là, n'en déplaise malheureusement aux femmes. Donc, c'était simplement pour ne pas créer, on va dire, des futurs enfants frustrés ou des futurs enfants qui n'auraient pas droit à l'héritage. Voilà, donc c'était un peu cette forme de régulation de la famille.
Alors, en conclusion, Madame Boitschak, qu'en est-il déjà de cette loi? Est-ce que l'on va la remettre sur la table au Parlement?
En tout cas, j'espère qu'elle sera vite remise sur la table au Parlement et qu'on va considérer que c'est une faute de parcours et qu'on va vite se ressaisir parce que vraiment, aujourd'hui, à l'ère actuelle, vivre sans loi sur la santé de la reproduction comme étant on va dire un garde-fou par rapport au comportement de la famille, on va à la dérive. Il faut vraiment réguler tout ça. Ça fonctionne bien au Sénégal, ça fonctionne bien au Burkina Faso, pourquoi pas chez nous? Et dépassons le fait que ça soit qu'un programme qui n'attire d'ailleurs personne. D'ailleurs, quand on respecte pas ce programme, il n'y a aucune sanction. Alors qu'avec la loi, il y aurait sanction.
Merci beaucoup Nicole Ntumba Boitcha. Je rappelle que vous êtes professeure de droit public international à l'université de Kinshasa, également conseillère juridique et ancienne magistrate. À très bientôt, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Selon des experts, les jeunes femmes de moins de 25 ans en Afrique du Sud ont un taux élevé d'infection au VIH et le virus du sida leur est transmis par des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Touzo Kumalo a rencontré certaines d'entre elles à Johannesburg. Son reportage est relaté par Michel Joseph.
Lolo Brigitta Tsupa, 30 ans, a appris qu'elle était séropositive à l'âge de 23 ans. Elle raconte comment elle a contracté le virus.
J'ai rencontré cet homme qui avait de l'argent. Il conduisait de belles voitures et il était très vieux, assez vieux pour être mon père. Il me faisait des cadeaux, me faisait sortir. C'était la vie que je voulais, celle que je n'avais pas. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai attrapé le sida.
L'histoire de cette Sud-Africaine est similaire à celle de Brenda Masango, 28 ans, ayant appris être séropositive en 2007 alors qu'elle était étudiante. Tout a commencé quand ses parents ont coupé leur soutien financier. J'ai dû acheter mes vêtements, faire attention à mes repas scolaires. Alors je suis sortie avec un homme plus âgé que moi. Il m'a dit, je te donne de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai donc fini par avoir des rapports sexuels avec cet homme sans utiliser de préservatif. C'est sûrement comme ça que j'ai contracté le VIH. Les experts disent qu'il y a 6,4 millions de séropositifs en Afrique du Sud et que les filles et femmes de 15 à 24 ans sont 4 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les jeunes hommes du même groupe d'âge. Dans le groupe des 20 à 24 ans, le taux d'infection chez les hommes est de 5,1% comparativement à 17,4% pour les femmes. Pour le docteur Farid Abdullah, directeur du Conseil national sur le sida en Afrique du Sud, les statistiques sont préoccupantes.
Environ un quart de toutes les nouvelles infections sont chez les filles et femmes entre 15 et 24 ans et nous pensons qu'elles sont infectées par des hommes plus âgés en échange de cadeaux pour les vêtements parce que ces hommes sont plus exposés au VIH.
Le médecin dit que l'Afrique du Sud a besoin de plusieurs actions pour éradiquer les relations sexuelles intergénérationnelles, y compris des programmes de réduction de la pauvreté et des campagnes d'éducation sexuelle destinées aux jeunes. Portia Serote, coordinatrice nationale pour la campagne d'action thérapeutique, une organisation de plaidoyer basée à Johannesburg, dit que la politique gouvernementale qui permet aux filles aussi jeunes que 12 ans d'avoir des relations sexuelles, d'utiliser des contraceptifs et d'avoir des avortements sans consentement parental est la principale cause du niveau élevé d'infection chez les jeunes filles. C'est tout comme les préparer à devenir séropositives et une fois qu'elles le sont, ça se gâte si elles sont enceintes et en plus elles sont trop jeunes. On les pousse à avoir des relations sexuelles mais il ne leur est donné aucun espace pour exercer leurs droits de manière responsable. Une petite note d'optimisme quand même, l'Afrique du Sud a réduit le taux de transmission du VIH mère-enfant à environ 2% contre 8%. En 2008.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You're out.
Un peuple, un but, une foi, un et indivisible.